à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est multifacette, comme souvent dans cette émission. Il s'agit de Bruno Jam. Bruno Jam, bonjour.
Bonjour.
Bruno Jam, vous avez 52 ans, vous avez deux enfants, vous êtes dans le centre de Toulouse, vous êtes à la paroisse d'Albane, et vous êtes cadre, cadre supérieur chez Airbus, où vous vous occupez notamment dans des défis de l'aéronautique de demain, c'est-à-dire vous êtes dans le business development sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire vous cherchez, vous êtes dans les équipes qui vont chercher à mettre au point l'avion du futur qui ne fera pas de carbone.
Tout à fait.
C'est ça. Bien, comme je le disais en commençant, vous êtes multifacette et donc on va essayer d'explorer trois de ces facettes qui ont particulièrement attiré mon attention. La première concerne le Japon. Ensuite, on parlera de ce que vous faites dans la rue, en tant que dans les missions de rue, en tant que missionnaire de rue, on peut dire ça comme ça, mais vous nous expliquerez plus précisément. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu de votre goût pour la théologie, parce que je sais, je crois savoir que vous êtes aussi embarqué dans un processus de formation à la théologie. Donc, si vous le voulez, comme vous avez été, vous êtes président du comité d'organisation de la Semaine du Japon en Occitanie, et que cette Semaine du Japon s'est terminée le 2 décembre, je crois.
Exactement.
Donc, il y a quelques jours. Cette Semaine du Japon a été un grand succès, je crois qu'on peut le dire. Mais si on vous a confié l'organisation, la présidence du comité de pilotage de cette Semaine du Japon, à laquelle participait l'ambassadeur du Japon, à laquelle participait la présidente de notre région, évidemment, Carole Delga, qui est très, la région est très impliquée dans cette semaine, et la présidente de la Fondation de la Dépêche également, Mme Bailey. Donc, si on vous a confié, si toutes ces personnes de haute énergie, haute vue, vous ont confié l'organisation, c'est bien parce que vous connaissez bien le Japon, donc je voudrais qu'on parle de ça, et notamment d'une chose qui préoccupe un peu les chrétiens, surtout qu'il n'y a pas longtemps a été diffusé à la télévision, je crois, un film qui retrace l'histoire des jésuites au Japon. Et c'est vrai que le christianisme est embryonnaire au Japon, n'a jamais vraiment pris. Les jésuites y ont été persécutés et ont fini plus ou moins par renoncer ou à développer notre religion dans le cadre du Japon. Le Japon est shintoïste, c'est la religion officielle. 90% des Japonais, ou pas loin, sont shintoïstes ou bouddhistes, l'un n'étant pas incompatible avec l'autre. Donc parlez-nous de ça un petit peu, expliquez-nous pourquoi le christianisme n'arrive pas à percer là-bas, qui y allait souvent.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une longue histoire quand même du christianisme au Japon, comme vous l'avez évoqué, avec les persécutions du 16e, 17e siècle, et toute une période où le christianisme est resté complètement exclu du Japon, jusqu'au retour des missionnaires des missions étrangères, en particulier à la fin du 19e siècle. Cependant, la grâce a fait que pendant toute cette période, donc du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y a quand même la foi s'est transmise dans ces communautés cachées. Et c'était une grande joie pour le père Petitjean de redécouvrir donc ces chrétiens cachés. Alors en petit nombre, c'est vrai. Aujourd'hui, la réalité de l'Église catholique au Japon, c'est un peu moins de 0,4% de la population, ce qui fait 400 000 baptisés catholiques sur une population de 123 millions d'habitants. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup.
C'est pas très gros.
La difficulté, je pense, enfin, selon moi, une des difficultés, parce que c'est évidemment quelque chose de complexe, c'est que, et vous l'avez évoqué, les Japonais sont shintoïstes dans leur croyance, dans leur tradition. Plus qu'une religion, c'est vécu plus comme une tradition, très lié à l'essence même d'être japonais. Et donc, être baptisé est vécu comme un renoncement un petit peu à cette essence Shinto, et donc à l'essence même d'être japonais, et met éventuellement un petit peu en marge de la société, puisque tous les, la vie des festivals locaux, des fêtes de quartier, est animée autour du temple Shinto. Donc, en tant que catholique, évidemment, participer à ces fêtes-là devient contradictoire. Et donc, si on se met en retraite de ces fêtes de quartier, de ces fêtes shintoïstes, on n'est plus dans la société. Et donc, on se met en marge.
Et alors, les bouddhistes, eux, apparemment, évidemment, il n'y a pas énormément de bouddhistes non plus, mais enfin, il y en a quand même beaucoup plus.
Si, en fait, les Japonais sont souvent à la fois shintoïstes et bouddhistes. On dit au Japon souvent, on est shinto, on meurt bouddhiste. Donc, la présentation de l'enfant qui est nouveau-né se fait au temple shinto, et les enterrements sont en général au temple bouddhiste. Donc, les deux vivent complètement intriqués l'un dans l'autre. Pour un Japonais, il ne va pas déterminer s'il est shintoïste et bouddhiste, il est un peu l'ensemble des deux. Et ça, c'est le côté adroit, quelque part, si je peux me permettre ce terme, qu'a eu le bouddhisme quand il est arrivé au Japon, c'est qu'il a fait une sorte de syncrétisme avec le shintoïsme. Il dit quelque part, les divinités shinto sont des bodhisattvas, donc ça va, on peut vivre bien ensemble. Ce que ne peut pas faire évidemment le catholicisme, puisque voilà, le Christ est le Christ, et on ne va pas dire qu'un dieu shinto est le Christ. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, quand même, les chrétiens baptisés au Japon, même s'ils ne sont pas nombreux, ne sont plus obligés de se cacher.
Non.
Donc, il y a quand même des églises dans les grandes villes qui ont une vie, il y a des évêques, il y a des prêtres,
tout
ça vit.
Oui, il y a une quinzaine de diocèses, je ne saurais plus dire de tête, mais donc oui, il y a des évêques, il y a un cardinal japonais, il n'y en a pas eu souvent, je crois que c'est le sixième simplement de l'histoire du Japon. Le cardinal de Osaka. Donc oui, il y a une vie paroissiale, mais c'est vrai que c'est la vie sociétale japonaise n'est pas adaptée à pratiquer sa foi. Donc c'est vraiment un effort énorme que ça demande aux catholiques du Japon.
Par exemple, le dimanche, est-ce que c'est...
Alors, le dimanche est quand même férié, enfin, on ne travaille pas le dimanche, mais il y a souvent beaucoup d'activités qui sont organisées, ne serait-ce que pour les enfants avec l'école ou pour les collègues de travail pour aller faire au golf, pour aller jouer au golf ou aller recevoir des clients. Et donc, c'est vrai que le dimanche, c'est pas évident. Le 25 décembre est un jour ouvré. Alors, on travaille le 25 décembre, donc pour fêter Noël, c'est pareil, c'est pas facile. Je parlais avec des prêtres qui organisent le catéchisme dans une paroisse de Nagasaki. Ils étaient très très compliqués parce que l'école organise des activités extrascolaires à la fin de la journée. Il y a des activités de club organisées souvent par l'école, les boîtes à bac avec les cours supplémentaires. Et donc arriver à trouver un espace pour le catéchisme ou même un week-end de retraite, c'est très très difficile.
Ouais. Donc c'est un peu mission impossible, et malgré tout, vous avez le sentiment que c'est en voie de développement ou que...
Je perçois l'Église du Japon comme une Église quand même en danger. Il y avait un certain l'espoir et le désir d'un nouvel élan avec la visite du pape François qui est au Japon en novembre 2019 et qui a rassemblé pas mal de monde, en effet, sur Nagasaki et à Tokyo. J'étais à la messe qu'il a célébrée à Nagasaki. C'était une très, 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 très belle messe. Mais alors, il y a une très belle couverture médiatique. La presse nationale a très bien couvert l'événement, surtout sur les messages de paix qu'il portait. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir un nouvel élan. Et les familles catholiques du Japon ont du mal elles-mêmes à transmettre leur foi aux jeunes générations, ce que l'on rencontre aussi en Occident, évidemment, mais en partant d'une base beaucoup plus fine, ce qui rend ce défi encore plus grand.
Et est-ce que les traductions des évangiles sont correctes? Parce que ça ne doit pas être évident.
Alors, c'était bien sûr un grand défi de la traduction des évangiles. La traduction actuelle qui est reconnue est un japonais parfois un peu compliqué, même pour les japonais, avec des termes peu usités dans la vie quotidienne. Il y a eu un grand débat aussi sur la manière de traduire le mot Dieu puisque, et ça dès Saint-François-Xavier au XVIe siècle, puisque au début il a utilisé un terme qui était Dainichi, qui était une divinité bouddhiste du soleil, mais évidemment ça engendrait la confusion, donc qu'il pouvait laisser croire que cette religion était en fait une rattachée au bouddhisme. Après, donc le mot latin Deus, bon, ok, bien, mais Deus, comment on le conceptualise? Et aujourd'hui, dans les traductions de la Bible japonaise, on utilise le terme Kami, Kami-sama, c'est-à-dire le Seigneur Dieu. Mais le Kami, c'est le même terme que les Kami qui sont utilisés pour désigner les divinités de la religion Shinto.
Oui.
Donc voilà toute l'ambiguïté quand même que ce mot Dieu, comment bien exprimer le terme Dieu pour qu'il soit intelligible à la manière catholique par un japonais. Rien que ça, c'est déjà un défi.
Et dans la représentation, parce que beaucoup de religions ne représentent pas Dieu, est-ce que c'est Shinto, c'est...
Alors, dans le shintoïsme, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des divinités, c'est un ensemble de divinités.
C'est
pas un monothéiste. Ça se rapproche plutôt d'un animisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de divinités, de tout, tout est divinisé. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est pas des dieux, c'est des divinités. C'est-à-dire qu'il y a des divinités une montagne peut être divinisée, un bel arbre peut être divinisé, une rivière va être divinisée. Voilà. Donc, parfois, je me dis la passerelle, parce que je cherche beaucoup en fait les passerelles que l'on peut faire si on pense que quand même dans ces croyances il y a quelque part une sorte de lumière originelle de l'alliance noachique qui reste et qu'il faut aller chercher pour bâtir la passerelle. J'ai quand même d'identifier dans tous ces éléments de la nature des divinités. Je me dis la passerelle à faire, c'est-à-dire c'est pas des divinités, mais c'est des signes de la divinité. Voilà. Et voilà, aider à franchir ce pas, de dire non, tous ces arbres, cette montagne, tout ça, ce ne sont pas des divinités en tant que telles, mais par contre, on doit bien sûr les admirer en tant que signe du Dieu créateur.
Du Dieu créateur, et donc il y a quand même une croyance en un au-delà
Croyance en un au-delà, par rapport, là c'est plus par rapport au bouddhisme, mais un au-delà qui est un cycle de, c'est un au-delà en cycle, hein, de réincarnation ouais. En fonction de ce qu'on a fait dans notre vie.
Oui, c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est plus proche du bouddhisme.
Là, c'est le bouddhisme. Et par contre, dans le shintoïsme, en fait, les personnes qui décèdent deviennent esprits, et c'est qu'il y a beaucoup, on respecte beaucoup l'esprit des anciens, et c'est aussi, d'ailleurs, une des barrières à la conversion au catholicisme, c'est se dire, oui, mais si je me convertis au catholicisme, comment est-ce que je vais faire pour respecter l'esprit de mes anciens, de mes ancêtres qui sont shinto voilà.
Mais ça, Dieu et esprit, c'est pas incompatible.
Ça, par contre, non.
Oui, donc il y a peut-être là le début d'une passerelle.
Une passerelle, oui. Ouais. Ouais.
Bien, écoutez, merci pour tous ces éclairages sur les difficultés de l'Église au Japon, hein, et sur qui sont vraiment des difficultés culturelles. En même temps, moi je vois un peu un message d'espoir dans la dernière chose qu'on a dite, c'est-à-dire qu'il y a quand même une croyance en un esprit qui va au-delà du corps vivant et donc de la mort. Et au fond, l'Église, c'est quand même l'Esprit. L'Esprit Saint est là. Donc, il y a un socle commun qui peut-être nous amènera. Dernière question. On m'a dit, mais alors, moi, comme je ne connais rien au shintoïsme, je teste auprès de vous, que le shintoïsme était une religion, au fond, très près de la nature. Oui. Et donc, dans l'époque actuelle, avait un écho tout à fait favorable.
Oui, oui. Alors, comme j'ai essayé de l'exprimer tout à l'heure, hein, quand on divinise un arbre, une rivière, une montagne, voilà, le shintoïsme, en effet, est très proche de la nature. Et je vois aussi, pour moi, un saint qui peut être aussi un saint passerelle, c'est Saint François d'Assise. Quand il dit, mon frère le soleil, ma sœur la lune, bah, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est... Avec, ouais. Évidemment, avec beaucoup de guillemets, mais oui, donc le shintoïsme est en effet une religion qui est dans le respect de la nature, et là aussi, on, pourrait, je pense, je sais pas regarder, mais peut-être s'approfondir Laudato aussi et voir des passerelles via Laudato aussi sur cet aspect-là. Oui.
Bien, merci. Je voudrais qu'on aborde maintenant le deuxième sujet que je trouve particulièrement aussi séduisant dans votre multifacette, comme je l'ai dit au début, c'est que vous êtes, moi je dis missionnaire de rue, peut-être que le terme n'est pas adapté, vous faites des missions de rue. Ouais. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Voilà. Alors c'est vrai que bon, je me sens pas missionnaire de rue, en sens que c'est pas mon état, mais par contre c'est vrai que j'accepte d'être envoyé en mission dans la rue par notre curé dans certaines circonstances.
C'est le père d'Artigues.
C'est le père Simon d'Artigues, voilà. Et dans au sein de l'ensemble paroissial cathédrale, voilà, on est un groupe d'une fraternité missionnaire où on anime de temps en temps. Alors c'était une fois par mois. Cette année, c'est un petit peu moins, mais voilà, on anime de la mission de rue avec un temps de formation, parce qu'évidemment, on ne part pas comme ça. Un matin ou un soir, hop, je vais faire de la mission de rue. Donc un petit temps de formation avec une approche qui a été en particulier, on va dire, formalisée par le groupe Annuncio, qui donne un petit peu des repères, ça s'appelle des jalons, pour d'abord savoir aborder les personnes, se présenter, être très clair sur des, voilà, on est catholique, on vient échanger avec vous sur tel ou tel sujet. Et l'écoute, l'importance de l'écoute des personnes que l'on rencontre. Ensuite, témoigner. On n'est pas là pour faire de la catéchèse, on est là pour témoigner de sa foi, de sa rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça qui est le plus fort, hein, de porter ce témoignage de la rencontre que l'on a avec le Christ, de qui est le Christ pour nous, en quoi il nous rend notre vie plus belle, et comme quoi, en quoi on a envie qu'il rende aussi la vie plus belle des personnes qu'on rencontre. Voilà, éventuellement, proposer aux personnes, on a des petits objets comme des marque-pages avec un autre père, un Je vous salue Marie, une Bible abrégée, et éventuellement proposer un temps de prière ensemble avec les personnes qu'on rencontre.
Donc concrètement, vous partez le soir?
Ça peut être le soir, ça peut être, on a des formules du soir et du matin. Donc ça,
vous êtes deux ou trois?
Alors on part toujours en binôme. En général en binôme. Mmh. On peut partir en trinôme, mais franchement c'est beaucoup mieux en binôme. Mmh. On a un temps de formation, un temps de louange, adoration, bénédiction pour le départ en mission par le prêtre, et après on part en mission de par deux sur une heure environ. Voilà.
Et là, vous partez à la big boat, comme on dit chez les chasseurs, c'est-à-dire où vous savez que vous allez rencontrer des gens.
Alors voilà, on prie beaucoup sur... D'abord, on prie pour notre binôme, pour bien accueillir notre binôme, parce qu'on ne choisit pas son binôme, on se présente, on s'approche devant l'autel, et puis en fonction de qui s'approche, on part en binôme comme ça. Et ensuite, on invoque l'Esprit Saint dans notre cœur pour qu'il nous guide vers les personnes qui sont le plus en attente de la rencontre du Christ, de préparer le cœur des personnes que l'on va rencontrer, de préparer notre cœur à accueillir le dialogue. Et voilà, après, c'est le plus difficile, en effet, c'est ce qu'on appelle l'accroche, c'est-à-dire avoir le premier mot en allant vers les personnes.
Donc vous partez dans la rue, là vous prenez des gens qui sont au bord des trottoirs.
Voilà, qui sont en train de faire les courses, qui sont en train de se promener, qui... Voilà.
Ah oui, c'est pas nécessairement des SDF.
Non, pas du tout.
Non.
C'est vraiment tout type de personnes qui sont dans la ville. C'est annoncer le Christ aux personnes de Toulouse.
Et l'accueil chez un certain nombre de gens doit pas être toujours favorable.
Non. L'accueil est quand même généralement bienveillant. De temps en temps, En effet, les personnes n'ont. D'où l'importance d'être très clair dès le début. De dire voilà, on est paroissien de la cathédrale, notre curé nous propose aujourd'hui d'aller échanger avec les personnes de Toulouse sur qui est Dieu pour eux, voilà, que représente Dieu dans votre vie. Voilà, on peut trouver une autre phrase de circonstance en ce moment, comme c'est Noël, il y a une mission de rue la semaine dernière, là, autour de la crèche de Noël. C'est plus voilà. Pour vous, est-ce que représente la crèche? Est-ce que vous avez préparé une crèche chez vous? Voilà, on trouve un mot un petit peu qui soit de circonstance. Ou que représente Noël? Qu'est-ce que Noël? Qu'est-ce que fêter Noël représente pour vous? Un petit mot d'accroche. Et à partir de là, laisser les personnes parler et dire quelle place a Dieu dans votre vie. Voilà.
Et quand on tombe sur un agnostique ou un athée, mais bon, j'imagine qu'avec un athée, ça tourne vite court. Mais un agnostique peut-être peut être intéressé davantage.
Oui, il y a tout. En fait, il y a des belles rencontres, à dire, avec tous les types de profils. Il y a des belles rencontres avec des personnes qui sont en effet agnostiques ou parfois même athées, vraiment très. Non, mais moi, je suis très heureux comme ça. Je n'ai absolument pas besoin de Dieu dans ma vie pour vivre de manière heureuse. Et il y a des personnes qui ont été baptisées mais qui n'ont pas eu d'éducation religieuse depuis. Ça, je le vois beaucoup avec des jeunes. Quand on tombe sur des personnes qui ont une vingtaine d'années, trentaine d'années, qui disent « Ouais, j'ai été baptisé, mais ouais, non, Jésus, je sais pas, enfin voilà. » Et donc, on engage un petit peu sur un petit peu leur quête, leur questionnement dans la vie, le chemin de bonheur. Il y a des belles rencontres aussi avec des catholiques engagés, hein, qui est toujours aussi intéressant pour renforcer l'engagement dans la foi et la pratique régulière de la foi. Des belles rencontres avec des personnes d'autres religions. J'ai une, enfin, ce qui me vient en tête, c'est une très belle rencontre avec des musulmans. Vraiment, une dame musulmane qui a dit quelque chose d'étonnant. On était sur le parvis devant la cathédrale et elle nous disait qu'elle aimait rentrer dans la cathédrale parce qu'elle sentait une présence qu'elle ne sentait pas dans une mosquée. C'est vrai, quand une musulmane vous dit ça,
ah oui. Wow.
Merci Seigneur, quoi. Amen.
Bon, donc il y a quand même toute une palette de gens qui sont prêts à vous écouter, à discuter avec vous. Et en général, combien de temps dure à partir du moment où l'accroche a fonctionné?
Oui. Alors là aussi, c'est assez varié. On va dire les 5-10 minutes pour des rencontres on va dire moyennes. Mais je me souviens très bien d'une mission de rue en juin dernier, où d'ailleurs on avait du mal à avoir une accroche qui marche. Bon, et puis à un moment, donc avec mon binôme, on a pris Esprit Saint, et on s'est approché de Saint-Aubin, et là il y avait deux jeunes qui étaient sur les marches de l'église de Saint-Aubin, et on a passé 40 minutes avec eux.
Ah oui.
Et là il n'y a pas de règle, c'est juste on laisse l'échange avancer tant qu'on sent qu'il y a l'échange avance, qu'il y a une grâce, que c'est en Christ qu'on échange, c'est on continue et voilà.
Et dernière question sur cet aspect des missions de rue, combien vous êtes à Toulouse et à qui faut-il s'adresser si on souhaite en savoir plus, éventuellement participer?
D'accord. Donc à Toulouse, alors je ne saurais pas dire, je pense qu'on est une trentaine plus ou moins avoir été formés à la mission de rue dans la paroisse cathédrale. Il y a sur le site de la paroisse cathédrale un lien sur la mission de rue. Et sinon, il y a le groupe Annuncio aussi sur Toulouse qui a lancé la mission de rue. Là, c'est plutôt à la paroisse étudiante.
À la parole étudiante, c'est-à-dire à
Saint-Pierre.
Saint-Pierre des Chartreux.
Des Chartreux, tout à fait. Voilà.
Qui est rue Valade, à côté de l'université. Dernier volet de votre personnalité qui nous intéresse, il y en a d'autres évidemment dont on pourrait parler, mais c'est le fait que vous vous êtes lancé depuis 3 ou 4 ans dans des études de théologie. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors pourquoi? C'est parce que mon accompagnateur spirituel me l'a suggéré. c'est tout bête, mais après j'y trouve du goût. Mais c'est vrai que c'est énorme. Enfin, donc ça, je fais en baccalauréat canonique à l'Institut catholique de Toulouse en ce qu'on appelle en cycle C, c'est-à-dire en cours du soir, ouais. Le mardi soir et le jeudi soir. Et Et c'est hyper enrichissant. Et là, je dois dire, on a beaucoup de chance à Toulouse d'avoir un établissement d'enseignement comme l'Institut catholique, des professeurs qui sont...
Des théologiens de grande qualité.
Des théologiens, que ce soit des dominicains, des carmes, des béatitudes. Et ça, vraiment, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je me rends compte quand je vais au Japon et que je me rends compte que c'est évidemment la densité de la richesse des personnes qui peuvent fournir un enseignement comme ça, pas du tout la même. Je pense qu'à Toulouse, on a vraiment une grande chance là-dessus. La chance aussi de pouvoir le faire, ben, on est une dizaine à suivre le cycle C, et donc d'échanger entre étudiants, c'est perturbant. Franchement, ça secoue un peu la foi, parce que ça redit des vérités qu'on a peut-être un petit peu perdu de vue. Donc, ce temps, il faut réajuster un petit peu sa manière de s'approprier sa propre foi. Donc, on a un petit peu un lâcher prise. Mais après, ça réancre, si on fait cet effort, en tout cas pour moi, en faisant cet effort, ça réancre de manière plus profonde encore la foi.
Et bon, 52 ans, reprendre des études, c'est pas évident, mais c'est des études un peu particulières quand même. Les autres, vous êtes une dizaine à suivre ces cours le soir, donc deux fois par semaine. Les autres, c'est quel profil?
C'est aussi majoritairement, on va dire, fin de vie professionnelle, voire à la retraite. Et puis, cette année, on a un petit jeune. Voilà, ça fait bien, c'est sympa.
Un petit jeune qui fait des études par ailleurs ou qui est déjà engagé dans la vie professionnelle?
Qui est engagé dans la vie professionnelle et qui se lance dans le baccalauréat canonique. Il a, je sais pas, il est à 23-24 ans, quoi.
Le cycle complet dure
7 ans.
7 ans. Donc, vous êtes au milieu.
Au milieu, oui, j'espère.
Bon, vous espérez tenir jusqu'au bout?
Ah oui.
Bon. Et donc, écoutez, on vous souhaite une belle réussite personnelle dans ce parcours spirituel des études de théologie. Bruno Jam, tout ce que vous nous avez dit était passionnant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de, parmi toutes vos activités, on pourrait parler de celle d'Airbus, évidemment, mais ce n'est pas le sujet ici. On comprend bien que vous êtes très occupé. Merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette demi-heure pour nous donner votre éclairage sur toutes vos expériences.
Avec grand plaisir.
Bonsoir.